Prions. Seigneur notre Dieu, nous te redisons toute notre reconnaissance d'être ici ce matin et notre reconnaissance d'avoir accès à ta parole librement. Notre reconnaissance parce que nous savons que selon ta promesse, en effet, tu es au milieu de nous. Et ton Esprit Saint habite dans le cœur des croyants, habite dans nos cœurs. Et c'est pourquoi, notre Dieu, nous voulons te demander grâce, que toi-même viennes mettre toute ta lumière dans nos cœurs, que nous délaissions le péché et que nous te laissions agir librement, que par ta grâce, la parole que nous allons entendre puisse pénétrer en nous et nous rendre plus conformes à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté envers nous, merci pour tout ce que tu fais, même quand nous ne nous en rendons pas compte. Nous te louons, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Nous sommes toujours dans ce long chapitre, long 11e chapitre des Hébreux. On va relire quelques versets, depuis verset 23. Et on ira jusqu'au verset 31. J'avais pensé terminer le chapitre aujourd'hui, mais je me suis complètement mis le doigt dans l'œil. Je suis arrivé qu'au verset 31. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. On le disait la dernière fois, le but de cette visite de la galerie des héros de la foi, des témoins de la foi que nous offre, visite que nous offre l'auteur de l'Épître aux Hébreux, le but c'est de nous montrer comment nos pères et nos mères dans la foi ont accompli de belles œuvres et surtout des œuvres courageuses dans la confiance et dans l'espérance du royaume à venir. Ils sont nos modèles en ce qu'ils ont persévéré jusqu'à la fin, sans craindre les hommes, sans craindre ce qui pouvait leur arriver. Sans doute que la peur a dû parfois les saisir quand la persécution se faisait vive, ou quand ils se trouvaient dans des situations de grand danger. Mais qu'ont-ils fait à ce moment-là? Ils ont porté leur regard au-delà, dans le sanctuaire céleste, dans la présence de Dieu. Ils n'ont pas mis leur espérance dans ce monde-ci, mais dans la Jérusalem céleste, en accomplissant néanmoins, et le mieux possible, ce qu'ils avaient à faire ici sur la terre. Ils sont aussi nos modèles en ce qu'ils ont persévéré, tout en sachant qu'ils n'obtiendraient pas tout de suite les choses qui leur avaient été promises. Ils ne les ont pas obtenues parce que, selon ce qu'en dit le verset 40, c'est en tout cas ce que je comprends, tous les croyants atteindront la perfection du ciel en même temps. Et étant donné que pour nous ce n'est pas encore l'heure, eux non plus ne l'ont pas atteinte. La volonté de Dieu était, et la volonté de Dieu est, qu'ils ne l'obtiennent pas sans nous. Dans notre galerie, déjà depuis un moment, nous nous sommes arrêtés devant le personnage de Moïse. Et c'est peut-être le moment de redire à quel point Moïse est un homme éminent. Non seulement dans l'histoire biblique du peuple d'Israël, mais aussi dans l'histoire tout entière de la Révélation. Ce n'est pas pour rien que l'auteur de l'Épître aux Hébreux le mentionne, et lui seul, au début de sa lettre. Vous savez, quand il établit la supériorité du Seigneur Jésus-Christ sur toute chose et sur quiconque. Vous vous rappelez, l'auteur avait expliqué pourquoi le Seigneur Jésus, même dans son humanité, quand il était sur la terre, était supérieur aux anges et aussi supérieur à Moïse. Ce Moïse dont l'Écriture affirme qu'il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, mais il l'a été comme serviteur, tandis que Jésus, lui, a manifesté une fidélité indéfectible, non pas à l'intérieur de la maison, comme le sont les serviteurs, mais sur la maison, c'est-à-dire en tant que fils de Dieu, comme chef sur toute la maison de son Père. Donc ce que je voulais dire, c'est que seul Moïse, en tant que grand personnage biblique, est comparé au Seigneur Jésus dans l'Épître aux Hébreux. Mais on avait vu aussi, dans nos premières prédications, que Moïse est un homme vénéré dans le judaïsme. Et il l'est encore. Ce qu'on comprend fort bien. C'est pour ça que c'était important pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux de bien montrer à ses lecteurs, surtout à ceux qui étaient tentés, parce qu'ils étaient persécutés, tentés de revenir en arrière, d'abandonner l'Évangile pour s'attacher à nouveau à la loi de Moïse, donc de leur montrer que non, que c'était bien Jésus, le Fils de Dieu, auquel il faut s'attacher et sur lequel notre foi doit s'appuyer et grandir, même si nous n'obtenons pas encore les choses qui sont promises, qui nous sont promises. Donc vous voyez, ce n'est pas étonnant que dans notre galerie des héros de la foi, nous retrouvions assez longuement Moïse. Et début septembre, avec le verset 27, nous avions compris que le départ de Moïse, quand il a découvert que la nouvelle du meurtre de l'Égyptien, vous savez, quand il l'avait tué pour défendre un de ses frères hébreux, que cette nouvelle était connue d'un peu tout le monde et qu'elle était même remontée jusqu'à Pharaon et que le Pharaon avait décidé de le punir, de punir Moïse en le mettant à mort. Donc quand Moïse s'est décidé à quitter l'Égypte, oui, certes, il est parti parce qu'il avait peur de se faire prendre. Il tenait à sa vie. C'est normal. Dans le Nouveau Testament, on voit par exemple un apôtre Paul qui doit un jour fuir ses ennemis en étant descendu par une corbeille de la muraille de Damas. Et Jésus lui-même s'est retiré plusieurs fois de la présence de ses ennemis parce que son heure n'était pas arrivée. Donc Moïse, comme l'apôtre Paul, n'a pas quitté son pays d'adoption par désespoir, dans l'angoisse de la mort, parce qu'il avait une peur panique de Pharaon qui voulait le tuer. Non, c'est par la foi qu'il est parti, en ne faisant pas une fixation des dangers auxquels il fallait qu'il échappe, mais en ayant les yeux fixés sur celui qui est invisible, dit notre texte, c'est-à-dire l'Éternel Dieu, celui qui tient tout entre ses mains et sans la volonté duquel rien n'arrive. Écoutez, le Saint-Esprit fait décidément bien les choses. Il fait toujours tout à merveille. Et dans nos études bibliques, nous sommes à la veille de ce qui est dit là, au verset 28. C'est par la foi que Moïse immola la Pâque et qu'il fit l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Alors, vous l'avez reconnu, cette plaie, c'est la dixième. Quand l'exterminateur, c'est-à-dire en fait quand l'Éternel lui-même, est passé sur l'Égypte pour faire périr tous les premiers-nés du pays, tant parmi les hommes que parmi les animaux. Et notre texte ici, comme bien entendu celui du 11e chapitre de l'Exode, indique que Moïse, dans sa foi indéfectible à Dieu, et là je fais juste une parenthèse, vous savez comment on peut dire que sa foi était indéfectible? Parce que son obéissance l'était aussi. Parce que je vous rappelle que la foi ne se mesure pas à notre capital de connaissances bibliques, mais à notre zèle et à notre promptitude à obéir à notre Père céleste, à conformer notre vie à sa parole. Justement, à ce capital de connaissances bibliques. Le capital lui-même n'a pas grande utilité s'il ne sert pas à nous mettre à l'œuvre, à nous conformer à la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'était vraiment une caractéristique de Moïse. Quelque chose qu'on retrouve sans cesse dans le livre de l'Exode, où on voit des quantités de fois cette phrase « L'Éternel parla à Moïse » et lui dit, et sitôt après, que fait Moïse? Il accomplit scrupuleusement la parole que l'Éternel vient de lui communiquer. On a encore vu ça mercredi. C'est une constante qui impressionne. Et c'est peut-être bien pour ça que dans Exode 33, il est dit que l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Moïse, l'ami de Dieu. D'ailleurs, Jésus lui-même, dans l'Évangile, a dit un jour à ses disciples, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Comme Moïse. La foi de Moïse était telle qu'il accomplissait scrupuleusement, comme je l'ai dit, les ordres de Dieu. Pas mécaniquement, ou pour se faire bien voir, s'attirer les faveurs de l'Éternel, mais parce qu'il se savait avoir été choisi comme un instrument pour accomplir sa volonté. Et son intimité était telle avec son Dieu que sa confiance envers lui était totale. On fait un petit test. Sur une échelle de 1 à 10, où vous situez-vous en ce qui concerne votre foi en Jésus-Christ? Alors là, le curseur.
Mais 10, c'est le meilleur.
10, c'est le meilleur. Ah, oui, bien. 10, c'est le meilleur. Voilà, c'est bon, vous avez placé le curseur. Attention. Mais si maintenant on parle de votre obéissance à sa parole, question, avez-vous besoin de déplacer le curseur? Pas contre en haut. Il n'y a pas besoin de me donner la réponse. Une quarantaine d'années sépare ce qui est relaté dans le verset 27 avec ce qui est dit des versets 28 et 29. Mais les deux fois, c'est intéressant, il s'agit pour Moïse de quitter l'Égypte. Pourtant, entre les deux passages, il y a une énorme différence. C'est qu'au verset 27, Moïse part seul pour sauver sa vie. Tandis qu'au verset 28, il s'apprête à faire sortir d'Égypte pour le salut le peuple hébreu tout entier. Première fois, il sort seul pour son salut. La deuxième fois, il sort à la tête du peuple hébreu tout entier aussi pour son salut. Et puis le verset 27 a été le prélude à la renaissance de Moïse. Renaissance qui aura lieu durant son séjour au pays de Madian, en tant que berger de son beau-père Jéthro. Alors que le verset 28 sera un prélude, lui aussi, à une renaissance, elle aussi, mais du peuple d'Israël, qui aura lieu au pays de Canaan. Pour nous, nous vivons quelque chose de semblable lorsque Dieu nous délivre de l'esclavage du péché, ou comme Moïse, de l'esclavage des idoles de l'Égypte ou des idoles de la Suisse, quand Dieu nous délivre par le sacrifice de son Fils bien-aimé. Nous expérimentons la nouvelle naissance et nous pouvons dire, comme l'apôtre Paul, les choses anciennes sont passées. Il faut le dire même, il faut le confesser. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et de la même manière que Moïse, la foi dans la parole de Dieu est indispensable pour ça. La première Pâque a donc été célébrée en Égypte. Et c'est à celle-ci, à cette première Pâque, que toutes les autres qui vont suivre vont faire référence chez les Israélites, puis les Juifs. Les années et les siècles qui vont suivre. Immoler cette première Pâque, c'était pour chaque famille israélite en Égypte, tuer un agneau sans défaut ou un chevreau mâle âgé d'un an. Et le chef de famille devait en prendre le sang et en mettre sur les poteaux des portes et sur le linteau, les portes de la maison où l'animal serait mangé avant la sortie d'Égypte. Et alors l'Éternel, en passant sur le pays d'Égypte, en voyant le sang sur les poteaux et les linteaux, l'Éternel épargnerait les premiers-nés des Hébreux qui s'y trouveraient. Et les premiers-nés des animaux aussi, de leurs animaux aussi. En fait, le sang placé sur les portes, indiquait que le sacrifice avait déjà eu lieu, que la mort avait déjà fait son œuvre. C'est une substitution. L'agneau meurt à la place du premier-né de la maison. Alors, c'était une chose absolument sérieuse, cette question de sang sur les poteaux et sur le linteau des portes. L'ordre de Dieu ne pouvait souffrir aucun compromis, aucune désobéissance. Pour nous, en lisant ces textes de la Bible, tout ça nous paraît assez simple. presque logique, puisque nous faisons si facilement le lien entre cette première Pâque et le sang de Jésus qui nous épargne de la mort éternelle que nous méritions tous à cause de notre péché. Mais pour les Israélites en Égypte, c'était une toute autre question. Essayez de vous représenter dans quel contexte ils se trouvent. Actuellement, c'est le grand chamboulement dans le pays d'Égypte. Il y a déjà eu 9 plaies qui se sont abattues sur le pays. Et comme on le disait mercredi dernier, le pays est à genoux. Oui, le pays est à sac. Les Égyptiens n'en peuvent plus. Et les Hébreux qui assistent à tout ça, qui ont été épargnés par les dernières plaies, doivent être complètement perplexes. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu des maladies, la mortalité du bétail, toutes sortes d'invasions par les grenouilles, les mouches venimeuses, les poux. Et après ça, les sauterelles qui ont presque tout dévoré. Est-ce qu'elles n'ont pas dévoré? C'est la grêle qui s'est abattue sur tout ça pour tout ficher en l'air. Mais qu'est-ce qui va encore arriver? Il y a quelque chose d'épouvantable que nous avons sans doute de la peine à mesurer dans les chapitres de l'Exode qui nous rapportent ces événements. Les 3 premières plaies, les Israélites les ont subies comme les Égyptiens. Les 6 suivantes, ils en ont été épargnés. Épargnés sans qu'il n'ait rien eu à faire. Et quand les dernières plaies se sont abattues, les Israélites ont vu que les Égyptiens commençaient à se rallier à eux. Et voilà maintenant la 10e qui arrive. La dernière, où l'Éternel promet qu'il va faire mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, à l'exception des premiers-nés des Israélites, à la condition qu'on vient de dire. Mais comme je le disais, dans les 6 dernières, ils ont été épargnés sans rien faire. Pourquoi n'en serait-il pas de même avec la 10e? Mes amis, c'est par la foi et pas par le raisonnement. C'est par la foi que Moïse immola la Pâque et qu'il fit l'aspersion du sang pour que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Exode 12, 21 à 28. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: « Allez prendre du bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. » Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» Vous répondrez « C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. » Le peuple s'inclina et se prosterna. Devant le commandement de Dieu. Et c'est donc bel et bien par la foi que Moïse immola la Pâque. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Les premiers-nés des Israélites ont donc été épargnés. Mais les Égyptiens, et le Pharaon en tête, n'en pouvant plus, se sont cette fois enfin laissés fléchir par l'Éternel. Et ils n'ont pas seulement ouvert la porte aux Israélites pour qu'ils s'en aillent, le texte dit encore, Exode 12, 33, que les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, parce qu'ils disaient « Nous périrons tous ! Vite, 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 que la plaie s'arrête !» Peu de temps après que le peuple d'Israël ait quitté l'Égypte, Pharaon, dont l'Éternel a encore une fois endurci le cœur, on a vu mercredi que dans les dernières plaies, c'est l'Éternel qui endurcit le cœur, alors que dans les premières, c'est Pharaon qui endurcit son cœur tout seul. Et là, l'Éternel endurcit encore une fois son cœur. Et Pharaon prend conscience qu'il est en train de perdre à tout jamais un réservoir énorme de main-d'œuvre, qui ne lui coûtait bien entendu presque rien. Et il s'en mord les doigts. Vous voyez, l'hécatombe des premiers-nés passe tout à coup au second plan. On n'y pense déjà plus. Et alors, Pharaon et ses armées se mettent à la poursuite des Israélites. Et il ne leur faut pas beaucoup de temps pour les rattraper. Bon, il faut dire que ça va quand même plus vite de déplacer quelques milliers de cavaliers et de chars que peut-être 3 ou 4 millions de personnes. Parce que le texte de Exode 12, 37 parle de 600 000 hommes de pied. Donc, pour l'armée, sans les enfants. Donc, c'est évident que ça va beaucoup plus vite. Et donc, voilà les troupes de Pharaon qui rejoignent Moïse et le peuple d'Israël en train de camper près de la mer Rouge. Exode 14, 10 à 14, les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as amenés dans le désert pour y mourir ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens ! Parce que nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. » Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. » Avez-vous remarqué ce dernier élément mentionné à propos de Moïse, là, dans notre épître aux Hébreux, est semblable au précédent en ce qui concerne la gravité de la situation. C'est que là encore, il s'agit d'une question de vie ou de mort, aussi bien d'ailleurs en ce qui concerne le peuple hébreu que le peuple égyptien, en l'occurrence l'armée égyptienne. À vue humaine, à raisonnement humain, il n'y a aucune échappatoire possible. Le peuple hébreu va essuyer de grosses pertes en représailles de sa fuite. Les Israélites en sont absolument convaincus. Et c'est la panique dans le peuple. Nous, on lit ça comme ça, hein. C'est la panique. Et voilà que l'Éternel ordonne à Moïse de lever son bâton sur la mer et de le redescendre comme s'il allait fendre la mer. Comme s'il allait. Mais il va la fendre. Pour qu'elle s'ouvre devant lui. Et voilà ce que dit l'Éternel. Les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et les Égyptiens, dont je vais encore endurcir le cœur, pénétreront après eux. Alors Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Exode 14, 16 et suivant. Nous n'avons pas besoin de lire la suite de l'histoire. Nous la connaissons bien. Après que les Israélites furent entrés dans le passage de la mer Rouge, entre les deux murailles d'eau, Pharaon et son armée y sont entrés aussi. Mais la mer s'est refermée sur eux. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Pourquoi ont-ils été engloutis? Mais parce qu'ils n'avaient pas la foi. Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Et même au contraire, ils le combattaient. Seul le peuple qui avait cru dans les promesses de Dieu pouvait passer au travers de la mer. Et c'est ce qu'il a fait grâce au bras puissant de l'Éternel. Nous aussi, si nous croyons dans les promesses de Dieu, nous passerons, quoi qu'il arrive, au travers de la mer de toutes nos épreuves, de toutes nos difficultés. On va terminer avec Moïse. Et personnellement, je le regrette. Heureusement qu'on va encore en reparler dans les études bibliques. Alors, dans tout ce que nous avons dit à propos de Moïse, il y a une chose qu'il faut bien considérer. C'est que si Moïse s'était rallié à la pensée dominante, et là je ne parle pas de la pensée dominante de l'Égypte, mais bien de celle du peuple hébreu, celle de ses frères. Et pour nous, on pourrait dire, si nous nous rallions à la pensée dominante de tout ce qui s'appelle l'Église aujourd'hui. Donc si Moïse s'était rallié à la pensée dominante, bien, je ne veux pas dire que les Israélites n'auraient pas pu être délivrés de l'esclavage de Pharaon, parce que pour accomplir ses promesses, les promesses qu'il avait faites à Abraham, à Isaac et à Jacob, il fallait que les Israélites soient délivrés de l'Égypte. Mais alors l'Éternel se serait sans aucun doute choisi un autre homme pour conduire son peuple, si Moïse s'était rallié à la pensée dominante. La pensée dominante du peuple hébreu, c'était quoi? C'était de rester en Égypte. Et après sa délivrance, pendant sa pérégrination dans le désert, cette pensée ne l'avait pas quitté. Il voulait retourner en Égypte. Vous comprenez ça, vous? Oh, mais c'est très simple. C'est très simple. Attention. C'est que le prix à payer pour servir Dieu est plus élevé que celui qu'il nous faut débourser pour servir le monde ou satisfaire la chair, notre propre chair, ou pour servir le diable. Le prix à payer pour être agréable à Dieu, pour le servir donc, c'est renoncer à notre propre vie. Ce que Moïse a appris durant les 40 années de son séjour au pays de Madian, et qu'il va encore perfectionner en servant l'Éternel comme chef de son peuple. Et nous l'avons déjà dit, notre foi ne peut s'exercer et mûrir et grandir que dans un contexte d'épreuve. Notre foi ne fait jamais si bien des progrès que lorsque les événements nous obligent à renoncer à nous-mêmes, c'est-à-dire à ne plus compter que sur l'intervention de Dieu. Ce qui a exactement été le cas le jour où le peuple d'Israël s'est retrouvé littéralement coincé, pris en tenaille entre la mer d'un côté et l'armée égyptienne de l'autre. Quelle garantie les Israélites avaient-ils que les deux murailles d'eau entre lesquelles ils étaient en train de s'engouffrer n'allaient pas tout à coup s'écrouler sur eux et qu'ils allaient mourir de cette mort atroce qu'est la noyade? Ne valait-il pas mieux sagement retourner en Égypte? Oui, en essuyant à coup sûr les représailles de Pharaon, mais en restant en vie, plutôt que de courir le risque de cette noyade. Franchement, à vue humaine, je voudrais dire même en tant qu'enfant de Dieu, mais qu'auriez-vous choisi? C'est ça qu'on appelle le bon combat. Quand les yeux de la foi ne se fixent pas sur la difficulté de l'épreuve, peut-être même sur l'apparente impossibilité de s'en sortir. Et quand ils regardent aux promesses de Dieu, promesses qui exigent que nous soyons délivrés de l'épreuve, que nous le soyons d'une manière ou d'une autre, de la manière que le Seigneur a déjà forcément préparé. Nous vivons une époque, peut-être plus que toutes les autres, où seul compte l'immédiateté, le présent, ou éventuellement le futur, mais alors à très courte vue. Et nous sommes nous-mêmes, en tant que chrétiens du XXIe siècle, formatés à ce même genre de regard à courte vue. On voit ça en tout domaine de notre société. Mais ce que nous enseigne l'Épître aux Hébreux et l'histoire du peuple d'Israël et toute l'histoire de la révélation, c'est premièrement que nous ne vivons pas pour nous-mêmes. On ne vit pas pour soi-même. Et deuxièmement que notre histoire individuelle, ou aussi par exemple l'histoire de notre petite Église baptiste de Sion, s'inscrit dans la volonté éternelle de Dieu. On ne sort pas tout d'un coup du temps, paf, maintenant ça c'est le temps de l'Église baptiste de Sion, tac, ça c'est le temps de celui-ci, de celui-là. Non, non, on fait partie d'un grand tout où la volonté de Dieu s'accomplit. Donc tout ça, ça s'inscrit dans la volonté éternelle de Dieu. Et cette volonté, ce n'est pas de satisfaire aujourd'hui notre ego, ce n'est pas de rendre notre vie la plus agréable et la plus confortable possible sur la terre. C'est quand même pas ça, la volonté éternelle de Dieu. Mais la volonté de notre bon Père Céleste, c'est de se rassembler un peuple qui le loue et l'adore au siècle des siècles. Et qu'alors nous trouvions dans cette activité de louer, d'adorer Dieu, que nous trouvions dans cette activité déjà aujourd'hui et quelles que soient les circonstances, comme nous le disait Gabriel il y a 15 jours, que nous trouvions tout notre plaisir, toute notre joie, tout notre bonheur. C'est ça, la volonté de Dieu. D'abord, avant toute chose, peut-être bien qu'on a un peu inversé les priorités. Au risque de rallonger un peu, je ne résiste pas à vous dire encore une fois ce passage de la première épître de Pierre au premier chapitre, versets 3 à 9. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Voilà, on laisse Moïse et on avance encore un peu. On va juste faire un pas dans notre galerie. Il y avait Moïse là, puis maintenant on va aller là. Verset 30, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Alors le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, en fait. Il a traversé la mer Rouge, et cette génération-là, que Dieu a délivrée, eh bien, à cause de son incrédulité, de sa rébellion incessante à l'égard de Moïse, et donc bien entendu à l'égard de l'Éternel, cette génération est morte dans le désert. Ils sont tous morts, sauf Josué et Caleb. C'est d'ailleurs bien pour ça que Dieu les a fait tourner en rond si longtemps avant d'arriver aux portes de Canaan, pour que cette génération n'entre pas dans le pays promis. Donc maintenant, c'est une nouvelle génération qui arrive. Pas par le chemin le plus court, par le sud, mais par l'ouest, par le pays de Moab. Il a fallu à ce jeune peuple d'Israël contourner comme ça, par là, la mer morte. Pour entrer dans la terre promise, ils devront, de ce fait-là, il y a la mer morte là, il y a le Jourdain là, il est là, il devra traverser le Jourdain, et là il y aura Jéricho. Et là encore, l'Éternel opérera un miracle, puisque le peuple pourra passer le torrent à pied sec, le Jourdain. Mais là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux n'en parle pas, de cet épisode-là. Il nous transporte déjà à Jéricho. Et c'est d'ailleurs dans le même contexte qu'on trouve l'histoire de Rahab, dont il faut qu'on parle tout de suite. Et on finira notre prédication avec Rahab. Moïse est mort dans les plaines de Moab. L'Éternel le lui avait dit, il n'entrerait pas dans le pays de la promesse. Et alors maintenant, c'est Josué qui est à la commande. Et c'est à lui que l'Éternel donne l'ordre de faire entrer les enfants d'Israël en Canaan, de conquérir le pays. Mais toute la contrée était habitée par des peuples païens et idolâtres, si bien que Josué envoie 2 espions ou 2 explorateurs de l'autre côté du Jourdain. Okay. Donc le peuple n'est encore pas passé le Jourdain. 2 Israélites pour aller examiner le pays et en particulier pour voir comment prendre la ville de Jéricho, qui était la première ville fortifiée qu'ils allaient rencontrer. Et c'est comme ça qu'on fait connaissance avec Rahab, une habitante de Jéricho, prostituée de son état, enfin, c'est en tout cas ce qu'elle a été par le passé, parce que vu la confession qu'elle va faire aux 2 espions, il serait plausible qu'elle ait renoncé à ce péché. Et donc c'est dans la maison de Rahab que les 2 explorateurs viennent passer la nuit. Mais les services secrets de l'époque, s'ils n'avaient pas les moyens qu'on a aujourd'hui, fonctionnaient quand même pas si mal que ça. On est venu informer le roi de Jéricho que 2 Israélites étaient arrivés et qu'il comptait explorer le pays. Mais non seulement on savait que ces deux hommes étaient entrés dans Jéricho, mais on était encore parfaitement au courant de la maison dans laquelle ils s'étaient réfugiés, la maison de Rahab. Une délégation est donc immédiatement dépêchée sur les lieux, chez cette femme, pour lui ordonner de faire sortir les deux Israélites. Seulement Rahab les avait bien cachés. Elle fit croire aux envoyés du roi qu'elle les avait bien vus, oui, tout à fait, mais qu'en fait, ils étaient déjà ressortis et elle ignorait complètement où ils s'en étaient allés. Ouh, l'affreux mensonge! En plus d'être une prostituée, elle est encore une menteuse. C'est ça votre réaction? Ah! Pourtant! Voyons ce que dit le Saint-Esprit par la plume de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Comprenez bien, ni l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ni Jacques non plus, qui cite également Rahab en exemple pour sa foi, et notez du peu, Jacques la cite et elle seule, Rahab, en compagnie de qui? Alors si vous ne le savez pas, vous ne trouverez jamais. Tellement ça paraît incroyable. En compagnie d'Abraham, le père des croyants. Oui, Jacques cite Rahab juste après le père des croyants. Allez, regardez, c'est à la fin du deuxième chapitre de Jacques. Donc, ni dans les Hébreux, ni dans l'Épître de Jacques, le Saint-Esprit ne fait mention du mensonge de Rahab, qui reste un mensonge, tout à fait, et qu'on n'a pas, on n'a pas à chercher à justifier ce mensonge. Mais simplement, tout simplement, il ne s'agit pas ici de mettre le doigt sur les imperfections de cette femme. Comme la plupart du temps, Dieu ne l'a pas mis non plus sur les péchés des patriarches, par exemple. Et la plupart du temps, il ne le met pas non plus sur notre propre péché. Mais il s'agit de souligner la valeur, la beauté de la foi de Rahab. Écoutez ce qu'elle dit au deuxième chapitre de Josué. Je lis un extrait depuis le verset 2. L'Éternel, je le sais, c'est Rahab qui parle, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Comment pouvait-elle savoir ça? Elle vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og. Puis un peu plus loin, nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Et c'est l'Éternel, écoutez bien ça, la confession de Rahab, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Non mais allez en ville de Sion et puis vous demandez un peu aux gens, c'est qui l'Éternel? Mais jamais il y aura une confession comme ça. Pas jamais quand même. Mais... Ouais. Vous voyez comme cette femme a compris la situation. Elle a surtout compris qui était l'Éternel et qu'il valait mieux être avec lui que contre lui. Elle a compris aussi que c'est l'Éternel qui allait bientôt livrer Jéricho entre les mains des Israélites. Et c'est la raison pour laquelle elle a accueilli les deux explorateurs. Elle les a cachés pour trouver grâce aussi bien à leurs yeux qu'aux yeux de l'Éternel. Les deux explorateurs sont ici pour Rahab, pour ainsi dire un type du Christ, pour être sauvé, il faut l'accueillir chez soi et compter sur lui, mettre toute notre confiance en lui. En échange de son hospitalité, elle les supplie, quand ils reviendront prendre la ville, qu'ils usent de la même bonté qu'elle a eue pour eux envers elle et la maison de son père. Ils le lui ont juré. Et là-dessus, elle les fit descendre avec une corde par une fenêtre de sa maison qui donnait sur la muraille. Vous voyez, il n'y a pas que l'apôtre Paul qui descend par les murailles. Et le signe qui va permettre à Rahab d'être épargnée, comme les enfants d'Israël, quand les enfants d'Israël prendront Jéricho, ce signe ressemble un peu à celui que les Hébreux avaient dû mettre sur les poteaux et sur le linteau des portes. Mais pour Rahab, ce ne sera pas du sang, mais bel et bien une marque rouge, un cordon de cramoisi qu'elle laissera pendre par la fenêtre, bien visible. Elle sera épargnée, en effet, et deviendra la mère, ou peut-être la grand-mère, on ne sait pas très bien, de Boaz, vous savez, ce saint homme qui a épousé Ruth. Rahab, l'ancienne prostituée, s'est rendue agréable à Dieu, uniquement par sa foi, pas par son mensonge, par sa foi, comme tous les patriarches, et comme Moïse, que nous avons vu jusqu'ici dans cette galerie, elle figurera aussi dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. On est encouragé, il me semble. Amen.